17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Grand témoin aujourd'hui, Alain Sexig, ancien instituteur, inspecteur général de l'éducation nationale, membre du comité de rédaction de la revue Hommes et Migration, instigateur du comité national de réflexion et de proposition sur la laïcité à l'école et aujourd'hui secrétaire général du Conseil des sages pour la laïcité. Alain Sexig, bonjour.
Bonjour Nasser Khétan.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, de vos activités, de ce que vous faites et tout, j'ai lu un petit texte d'Edgar Morin qui disait « Moi je suis pour la liberté, je suis pour les femmes qui veulent laisser tomber leur voile en Iran et je suis pour les femmes qui veulent porter leur voile en France ».
Moi, je suis avec les femmes d'Iran qui ne veulent pas porter, les femmes d'Algérie qui ne veulent pas le porter, et je suis aussi avec les femmes qui, en France, luttent pour ne pas le porter, parce que je considère que c'est le même combat, quelle que soit la latitude où nous nous trouvons.
Vous bottez en touche, là.
Je ne botte pas en touche du tout. Les femmes d'Algérie...
Edgar Morin parle de la liberté individuelle et de choix, etc. Edgar Morin, qu'on présente...
Mais d'abord, alors... Entendons-nous bien, d'abord. Les femmes d'Algérie qui ne veulent pas porter le voile, avec lesquelles, personnellement, comme vous, j'imagine, je suis en contact, nous demandent ici de tenir bon sur le principe de laïcité. Elles nous disaient déjà en 1989, au moment de la première affaire de voile au collège de Creil, « Tenez bon, ne nous donnez pas un coup de poignard dans le dos ». J'ai le souvenir de cette expression d'une amie que j'avais eue au téléphone. Donc c'est le même combat des mêmes femmes, quelle que soit la latitude où elles se trouvent.
Mais là,
ce n'est
pas
une
ambiguïté. Il y a la laïcité qui est la liberté des... Voilà, on va y revenir dans l'émission, de pouvoir exercer sa religion, etc., etc., ou de ne pas avoir de religion. Et il y a la liberté individuelle qui garantit la République.
Mais je ne vous ai pas dit...
C'est deux choses différentes.
Je ne vous ai pas dit qu'il fallait en finir avec cette liberté. Je ne vous ai pas dit qu'il fallait interdire aux femmes de le porter.
Les Hare Krishna ou les nudistes, les nudistes peuvent se promener tout nus. Oui. Les Hare Krishna peuvent
pas
se vêtir comme ils veulent.
Pas n'importe où, quand même, les nudistes.
Les Lubavitch peuvent s'habiller comme ils veulent. Oui. Donc,
mais je ne vous dis pas qu'il faut interdire partout le port du voile pour toutes les femmes. Je ne suis pas du tout en train de vous dire ça. Je vous dis que je suis avec celles qui ne veulent pas le porter. C'est pas tout à fait la même chose que je suis en train de vous dire. En ce qui concerne le port du voile, la question s'est particulièrement posée quand il s'est agi de l'école, parce que c'est apparu dans notre pays à ce moment-là. Nous connaissions très peu ce signe dans la rue, dans d'autres institutions. Il est apparu en pleine lumière à l'école, au collège Gabriel Havès de Creil, en 1989. Et quand il est apparu, c'est comme si des décennies de réflexion sur la laïcité, des décennies de réflexion sur la pédagogie dite interculturelle, l'accueil des enfants venus d'ailleurs, etc. Vous savez, on en a fait beaucoup là-dessus, et moi également. Eh bien, comme si tout ça ne servait à rien, on était complètement désemparés, on ne savait pas comment agir. Très concrètement, on ne savait pas si on pouvait dire oui à la présence de ce signe dans les établissements scolaires ou s'il nous fallait dire non. Il a fallu 15 ans et le travail de la commission Stasi pour qu'on en arrive au vote de la loi du 15 mars 2004
interdisant
ces signes. Donc ce que je vous dis simplement, c'est que dans l'école, ce signe n'a pas plus que d'autres signes, ces tenues manifestant une appartenance religieuse, droit de citer. Pour le reste, je ne conteste pas la liberté individuelle de femme de le porter, de vouloir le porter, libre à elle. Simplement, il est difficile parfois de faire le départ entre la volonté individuelle de certaines femmes et l'imposition qui leur est faite d'en parler de la part de pères, de la part de grands frères, de la part de l'entourage. Et croyez-moi, je pense, enfin, que vous pouvez m'en croire, je sais ce que je dis pour en avoir parlé avec beaucoup d'entre elles.
Alors, Alain Sexig, on a coutume de dire que la France est la fille aînée de l'Église. Et en même temps, c'est pratiquement le seul pays au monde, si on excepte un peu le Liban, qui a une espèce de laïcité, de tolérance intercommunautaire, et le Mexique, qui a dans sa constitution aussi la laïcité, mais qui n'est pas trop exprimée. Donc, France, fille aînée de l'Église, et en même temps, le seul pays laïque du monde.
Alors, je ne dirais pas que c'est le seul pays laïque du monde. Je crois que la laïcité, c'est la forme qu'a prise en France la séparation du religieux et du politique. Et cette séparation du religieux et du politique est à l'œuvre dans bien d'autres pays que la France. Donc la laïcité, c'est la forme spécifique que ça a pris ici, certainement. J'observe aussi que dans beaucoup de pays, on se tourne de plus en plus vers le modèle laïque français. Un signe qui ne trompe pas, c'est que le terme laïcité est de plus en plus employé en anglais. On disait secularism, jusque-là. Et depuis une bonne dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'est un terme qui apparaît dans les journaux, dans des thèses, dans des livres qui sont publiés. Donc, on se tourne aussi. Quand l'Angleterre, qui était totalement éloignée, la Grande-Bretagne totalement éloignée du modèle laïque, se réveille un jour avec des attentats qui ont été fomentés sur son sol par des jeunes qui ont été élevés, qui ont grandi, qui ont été instruits à l'école anglaise, il se pose des questions. Même chose en Allemagne où le multiculti était la norme. Eh bien, on se dit, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné ici, même si nous avons notre lot, bien entendu. Eh bien, de plus en plus, des gens se tournent vers le modèle laïque français.
Alors, troisième question. Autour de la définition de la laïcité, on a le sentiment aujourd'hui que la laïcité, c'est un peu l'auberge espagnole, parce que on a les revendications, on a différents débats, et chacun est pour la laïcité, mais chacun y amène un peu sa conception à lui de la laïcité. Comment vous gérez ça ?
Oui, vous avez parfaitement raison. Ça n'est pas le plus mince des problèmes, et tout ça est apparu réellement. C'est cristallisé avec cette première affaire de voile à l'école dont je parlais, au collège Gabriel Avès de Creil, tout simplement parce que pendant les 15 ans qui vont suivre cette affaire, qui arrive à l'automne 89, à peine éteint les feux de la fête du bicentenaire de la Révolution française, voilà, ça éclate dans un collège, pendant 15 ans, jusqu'au vote de la loi du 15 mars 2004, vous avez dit que nous allions y revenir, pendant 15 ans, nous avons eu une application à géométrie variable de ce principe de laïcité, pourtant porté par les mêmes fonctionnaires, dans la même institution, l'éducation nationale, d'un établissement scolaire à un autre, quelquefois voisin de 800 mètres, on avait une application totalement différente. Dans un cas, le chef d'établissement disait « j'accepte que des élèves portent un signe d'appartenance religieuse ». Dans un collège voisin, le chef d'établissement disait « non, pas de signe d'appartenance religieuse dans mon établissement ». Et dans les deux cas, ça produisait du conflit. Dans les deux cas.
Mais en même temps, parfois, il y a des signaux qui sont imprégnés, y compris par les plus hautes autorités de l'État. On se rappelle le voyage de Nicolas Sarkozy au Vatican, quand il a rencontré le pape, et il sort de là avec le concept de laïcité positive. Oui, donc, les gens ne savent plus à quel ça se vouer.
Je continue à vous donner raison, Nasser Kétan. Cette propension que nous avons eue ces dernières années, que ce soit au plus haut, au sommet de l'État, le président Sarkozy parlait de laïcité positive, et que ce soit au niveau d'associations d'éducation populaire qui parlaient de laïcité plurielle, de laïcité ouverte, comme s'il y avait une laïcité fermée. Bien sûr, ça n'a pas peu contribué à obscurcir les débats et l'entendement autour des notions de laïcité. Personnellement, je préfère qu'on parle d'une laïcité simple, non adjectivé. Dès qu'on adjective un substantif, bien souvent, on en diminue le sens. Donc, parlons simplement de laïcité et revenons aux fondamentaux. La laïcité, on peut l'expliquer simplement. Moi, vous le rappeliez, j'ai été instituteur, il m'arrivait de l'expliquer à des élèves d'école élémentaire. Bon, en termes simples, la laïcité, c'est la séparation des églises, entendu au sens de religion, et de l'État. Il n'y a pas de mainmise de l'État sur la gestion des religions, de même qu'il n'y a pas d'intrusion du religieux dans les affaires du politique. C'est assez simple à comprendre. Deuxième élément de la laïcité, c'est la distinction des espaces, distinction entre ce qui relève de l'espace intime, de l'espace privé, de ce qui ressortit à la sphère publique. On ne fait pas la même chose. Vous évoquiez les nudistes. On peut pas se promener tout nu dans la rue comme on veut non plus. L'ordre public doit être respecté. C'est dans la limite du respect de l'ordre public que certaines libertés sont acquises. Et enfin, c'est bien entendu la liberté de conscience, la laïcité. Et la liberté de conscience qui inclut la liberté de culte. Il y a des articles très précis là-dessus dans la loi de 1905. Évidemment, la laïcité, c'est aussi la liberté de culte. La laïcité, ce n'est pas l'anti-religion. C'est, comme le disait Victor Hugo en 1850, je veux l'État chez lui, l'Église chez elle, disait-il. Eh bien, la laïcité, c'est l'État chez lui, l'Église chez elle.
Mais on a le sentiment quand même que récemment, l'État s'immisce de plus en plus dans, en tout cas, la vie des religions, en particulier de la religion musulmane, puisqu'il s'attache à la construction de l'organisation de l'islam, de l'organisation du culte, de la formation des imams. Juste avant qu'on s'arrête un petit peu, cette immission de l'État, c'est quoi ? C'est un signe de faiblesse de la République ?
Je n'ai jamais personnellement suivi cette tendance de responsables de l'État à s'immiscer, comme vous le dites, dans les questions d'organisation de religion, en particulier de l'islam. Je pense qu'on a pensé en haut lieu qu'il manquait des interlocuteurs, qu'il fallait aider à ce que des interlocuteurs émergent dans l'islam de France. Il y a eu des tentatives sous le président Sarkozy, vous l'avez dit, d'autres aussi. Le ministre Jean-Pierre Chevènement à l'intérieur avait tenté aussi d'amener pleinement l'islam à la table de la République, disait-il à l'époque. Bon, j'ai toujours pensé qu'il fallait y aller à pas compter et il fallait se montrer très précautionneux dans cette histoire parce qu'effectivement, nous n'avons pas, la puissance publique n'a pas à s'ingérer dans ces histoires. Voilà. Donc, aujourd'hui, on peut quand même dire que des personnalités émergent. J'entendais que vous recevriez bientôt Khaled Benchir, qui est le président de la Fondation de l'Islam de France. Il en est d'autres aussi qui émergent en France, et c'est une bonne chose. Il faut, je crois, aussi compter avec le temps. Et bien souvent, les politiques aussi sont pressés. Ça peut expliquer certaines tentatives d'une organisation de l'extérieur de l'Islam de France.
Merci. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'émission.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Grand témoin aujourd'hui avec Alain Sixzig. Je disais tout à l'heure que toute votre vie, ça a été d'enseigner, vous êtes instituteur. Et d'abord, c'est cette vocation vers l'école, elle s'est apparue comment ?
Oh, c'est relativement simple dans mon cas. Mon père était instituteur, ma mère s'occupait de nous, nous étions 5 enfants à la maison. Mon père était instituteur et enfant, nous habitions, après avoir quitté l'Algérie, nous habitions à Chalon-sur-Saône, dans le logement de fonction de l'école. Donc l'école, c'était ma maison, d'une certaine manière, c'était ma maison. Et lorsque j'ai été en CM2, l'élève de mon père, j'avais juste à sortir de la maison, descendre un escalier, je me retrouvais dans la classe avec mon maître qui était mon père. Et donc c'était une histoire très intime.
C'était finalement encore l'époque où il y avait les filles d'un garçon, les filles et les garçons de chaque côté.
Oui, l'école n'était pas mixte.
Des blouses bleues, des blouses roses, oui. Quand le professeur rentrait en classe, on se levait. Oui. C'était ça ?
Alors, c'était ça, pas tout à fait ça. On n'avait pas de blouse bleue pour les garçons, rose pour les filles. Encore que quelques années auparavant, c'était bien le cas. Mais moi, je me souviens qu'on avait un peu des tabliers, comme nous disions, des colliers, bon, un peu à notre fantaisie. Mais voilà.
Et cette école, très tôt, elle vous est apparue pour vous comme le lieu de où on fabrique la citoyenneté, l'individu, l'excellence, c'est ça ?
Bien sûr, ça m'est apparu comme ça. Comme je vous disais, il y a une dimension très personnelle qui est particulière, parce que se retrouver l'élève de son père dans une classe où vous connaissez tout le monde et où vous allez être distingué de ce fait-là, je me suis mis à vouvoyer mon père dans la ouais. classe. Je disais monsieur, quand je levais le doigt, etc. Donc il y a eu quelque chose d'un peu particulier pour moi, mais bien entendu, l'école, c'était le lieu où nous pouvions apprendre, connaître, découvrir. J'étais avide de connaissances, en particulier en histoire, en géographie. Je n'arrêtais pas les poésies, je les avalais. et mes camarades aussi. Nous étions, il y avait une émulation très importante. Je parle d'une école des années 50. Hein. Vous voyez, je suis né en 52. Vous voyez, donc j'étais jusqu'en 60, j'étais à l'école élémentaire. Et puis par la suite, bien sûr, j'ai connu le collège, le lycée. C'était un peu différent en région parisienne cette fois.
Alors, on a le sentiment que l'école, c'est vraiment là où se fabrique. Bien sûr la connaissance, mais aussi une espèce de cette capacité à réfléchir, à avoir un esprit critique, curiosité, etc. Et on a ce texte formidable d'Albert Camus, hein, qui écrit à son professeur Germain lorsqu'il a le prix Nobel de littérature. Vous êtes un peu nostalgique de cette période où on enseignait la morale, l'instruction civique, on dit que l'autorité a disparu de l'école et on a le sentiment qu'on veut la réintroduire, mais sous une autre forme de l'autoritarisme. Donc,
effectivement, la nostalgie n'est pas très opérante, si vous voulez. Là, ça ne peut pas être moteur, mais c'est vrai que j'aimais cette école et que j'aime encore certains de ses aspects. On évoquait le tablier d'écolier. Évidemment, on s'engausse aujourd'hui, on hausse les épaules quand on parle de la blouse d'écolier. Mais il faut se souvenir que les hussards de la République et la République elle-même avaient institué cette pratique pour masquer les différences sociales à l'intérieur de l'école, pour les masquer non pas parce que ça n'était pas le problème de l'école, mais pour que personne ne soit assigné à résidence sociale, justement. C'était ça. Mais on a guère retrouvé, en nous débarrassant du tablier, on a guère retrouvé de symboles de ce type qui pouvaient participer de la même idée. On peut le regretter. Donc, j'aimais cette école, j'aime encore y voir certaines applications. Personnellement, j'ai été inspecteur en Seine-Saint-Denis, inspecteur de l'éducation nationale, et auprès d'écoles qui étaient dans des quartiers difficiles de Seine-Saint-Denis, eh bien, j'ai réinstitué la distribution des prix. Ça peut paraître étonnant et étonnamment ringard, mais je peux vous dire que ça fonctionnait très bien, qu'il y avait une adhésion non seulement des enseignants, bien sûr, je ne pouvais pas le faire contre eux, mais des élèves et des parents, et même au-delà, quelquefois des grands-parents qui venaient bien habillés, qui mettaient un point d'honneur à venir à cette cérémonie, bah, qui prouve que l'école peut être encore aujourd'hui au centre de la cité, au centre des préoccupations.
Alors,
de la cité.
On le sent particulièrement. Bon, on a vécu ce que l'école a drainé d'identification à la République, d'installation d'une cohérence nationale, etc., à travers tous les territoires, parce que la France n'est pas construite comme ça en 24 heures. Mais on le sent surtout à travers les nouvelles populations migrantes. Et quel que soit le pays d'origine d'où on vient, en tout cas les primo-arrivants investissent dans leurs enfants et sont souvent attachés à l'école, sont prêts à se sacrifier. Et je ne connais pas une famille d'immigrés qui ne se sacrifie pas pour sa fille, pour son fils, en espérant, en se disant, cette école-là, c'est celle-là qui va permettre à mon fils, à ma fille, d'être vraiment l'individu que moi j'aurais souhaité être, quelle que soit l'origine. Et ça, on a l'impression qu'on le perd de vue aujourd'hui dans les grands débats qui vont un peu dans tous les sens.
Alors vous parlez d'or, Nasser Khétan, en ce qui me concerne, j'ai longtemps été responsable de la scolarisation des enfants venus de différents pays du monde en France. J'ai été responsable de ce que nous appelions, formateur dans ce que nous appelions jadis les CEFISEM, les centres de formation et d'information pour la scolarisation des enfants de migrants. C'était très long. Et ça a été changé en 2002 avec le ministre Jack Lang auprès duquel je travaillais, et ça a été transformé en CASNAV, Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants. Et le V, c'est les enfants de familles de voyageurs, voilà, qui existent, qui sont là, qui sont scolarisés, mais qui n'étaient pas identifiés comme tels dans une structure de l'éducation nationale. Donc c'est le cas maintenant avec les CASNAV. Donc j'ai été responsable sur l'Académie de Paris, qui est pas n'importe quelle académie du point de vue de l'accueil d'enfants de familles étrangères, une des principal concerné, j'ai été responsable de cela. Et j'ai pu voir à l'œuvre ce que vous dites, je l'ai très souvent vu, c'est-à-dire l'investissement des parents dans la scolarité de leur enfant. On se méprend souvent quand on s'imagine qu'ils sont distants de l'école, parce que quelquefois ils n'osent pas venir, ils n'osent pas trop parler. Il y a une grande attente vis-à-vis de l'école, et simplement aussi, on est parfois gêné, et des parents peuvent être gênés, qui ne maîtrisent pas bien le français, qui, pour certains, ne savent pas lire, écrire, et qui ont du mal, par exemple, à suivre le travail scolaire de leur enfant, à le suivre concrètement. Bien moi, quand je recevais des parents d'élèves, comme ça, qui avaient du mal, qui n'étaient pas eux-mêmes passés par l'école, qui ne maîtrisaient pas la langue française, ni à l'écrit, ni à l'oral, ni très bien à l'oral, disons, et moins encore à l'écrit, eh bien, je leur disais, bien sûr, c'est mieux si vous savez lire et écrire, et un professeur aidera plus facilement son enfant, parce qu'il maîtrise les codes. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez soucieux de la bonne scolarité de votre enfant, et qu'il le sente, qu'il le sache, et ça, c'est moteur pour l'enfant.
Et on le retrouve souvent dans aussi des pays étrangers, où les écoles françaises sont prises d'assaut par les locaux, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, en Tunisie, que ce soit en Afrique subsaharienne, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Asie. Les écoles françaises sont prises d'assaut parce qu'on sait qu'on y fabrique de l'intelligence, de la critique, de la connaissance, et que ce soit les gens qui sont, disons, en situation qui sont aisés ou d'autres gens, ces écoles n'arrivent pas à recevoir tout le monde. L'école française a beaucoup de succès de par le monde. On l'oublie, ça aussi. Ça, souvent.
Mais vous avez parfaitement raison. Elle a même eu du succès en Algérie. Des années 30 à l'indépendance, c'est le titre d'un livre qui est paru aux éditions Bleu Autour, l'école en Algérie des années 30 à l'indépendance, et qui est, il y a une cinquantaine d'auteurs qui participent, qui ont tous en commun l'Algérie et l'expérience scolaire, si vous voulez, et qui est un véritable hymne d'amour à ses enseignants, dont bien sûr la figure emblématique reste Louis Germain, l'instituteur d'Albert Camus, rue Omra, à l'école de la rue Omra à Alger, école dans laquelle mon père a exercé.
Alors, vous parlez de votre père, Alain Sixzig, il est tombé comme Astérix dans le chaudron magique, dans la potion. Cette potion magique, c'est l'école. Vous avez été abreuvé par cette école de la République, et donc très tôt, vous êtes attaché à cette école, à cette République, à la laïcité. Et cette espèce de d'arc-boutage à la laïcité, vous en faites quasiment votre étendard, et vous êtes instigateur du Comité national de réflexion et de proposition sur la laïcité à l'école en 2002. Déjà à l'époque, une mission laïcité au cabinet de Jacques Lang, après à la commission Stasi, etc. Et ça veut dire que la République, la laïcité, l'école est le fondement de la République, et dans cette République, dans cette école, la laïcité est consubstantielle, est le moteur, est la condition sine qua non de l'attachement à la République, de vouloir faire République.
Alors moi je crois...
Si on fait République, on fait laïcité, on fait école de République.
Alors d'abord il faut dire que l'école publique, l'école de la République, l'école, si l'on remonte, de Jules Ferry, fin du 19e siècle, les grandes lois, 1881, 82, 83. L'école de la République a été laïque avant la République elle-même. La République le sera pleinement avec la loi de 1905, et puis, par la suite, la Constitution de la République dira en 46, en 58, que la République et que la France est une République, démocratique, laïque et sociale. J'oublie bêtement le premier terme, c'est-à-dire uni. C'est drôle, le terme ne me vient pas. Il faudrait reprendre l'article premier de la Constitution. Mais l'école l'a été avant. Le terme de laïcité apparaît dans le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson. On parle des enseignements qui doivent être laïques. Donc l'école a précédé le mouvement de laïcisation de la République. Et puis, on peut dire aussi que l'école, enfin, l'école a fait la République, d'une certaine manière, en ce sens, et puis la République a fait l'école. Il y a un lien consubstantiel, bien entendu, entre les deux, et avec la laïcité.
Et c'est de là que vient votre souci permanent de débusquer la moindre atteinte à la laïcité à l'école, parce que si on touche à la laïcité à l'école, on touche à la République.
Alors, débusquer la moindre atteinte, je ne suis pas là à fureter de partout pour dire attention là, allez-y.
Je suis pas le Cerbère de l'école.
Non. Vraiment, donc je vous reprends sur cette expression parce que ça n'est pas le cas. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il faut être capable de réagir tranquillement et fermement à des atteintes au principe de laïcité. Alors, en 1989, on nous disait, mais c'est pas bien grave, c'est pas deux fillettes qui portent un foulard, des fois on disait un fichu, qui vont mettre à bas la République, non?
Bien sûr. C'est allusion au lycée de Creil, là.
Oui, je parle de Creil. On nous disait, c'est pas bien grave, c'est pas deux fillettes qui vont mettre à bas la République. Oui, évidemment, vu comme ça. Mais si on n'est pas capable de réagir à des petits problèmes, à des situations qui mettent en jeu des problèmes qui paraissent, minuscules, que dira-t-on? Quand ces problèmes auront grandi, que pourra-t-on faire quand ils deviendront énormes? Et c'est exactement ce qui s'est passé. On n'a pas su réagir comme il le fallait. Les partisans de la force tranquille de 81, dont j'étais, n'ont pas su réagir tranquillement, de manière tranquillement ferme en 89 devant l'apparition des voiles. Et encore une fois, on en paye d'une certaine manière les conséquences parce que c'est institué dans notre pays un débat souvent difficile et biaisé sur la laïcité.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
De retour avec Alain Sixzig, secrétaire général du Conseil des sages pour la laïcité. Alain Sixzig, vous vous êtes jeté dans la bataille et vous avez été un fervent défendeur de... En tout cas, vous avez défendu le vote au Parlement de l'exclusion des signes religieux dans l'espace public, au collège, au lycée. Et... vous avez été, cette loi a été critiquée dans pas mal d'endroits, notamment en Angleterre, en Pologne. On a dit ça y est, la France n'est plus une république, n'est plus une démocratie. Il y a eu quand même pas mal de critiques et on vous a accusé de remettre en cause la liberté et la démocratie.
Alors, il faut encore une fois revenir à ce qui s'est passé en 89. Parce que je crois que c'est vraiment le point nodal qui explique beaucoup de choses qui ont pu se passer par la suite avec l'apparition de ce signe que nous connaissions peu en France à ce moment-là au collège Gabriel Avez de Creil. Et je vais faire un tout petit retour en arrière. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu d'autres situations qui avaient su être réglées. 4 ans auparavant, en 1985, à l'automne 85, 2 collégiennes arrivent dans leur collège. C'était à Créteil, non loin d'ici, le collège Pasteur de Créteil, en portant un voile, ce qu'on mettra du temps à appeler un voile. Et après discussion, elles ne souhaitaient pas l'enlever, ni leurs parents le leur faire ôter. Et de manière unanime, tous les professeurs de l'établissement, l'équipe de direction, etc., disent non, ça c'est pas possible. Pour ce signe comme pour d'autres, il y a pas, nous n'avons pas accepté de manifestations religieuses de ce type. Et ils décident d'inscrire un article dans le règlement intérieur de l'établissement pour le spécifier. Ils se réunissent, ils rédigent cet article, ils tenaient en 2 lignes, et ils s'adressent, la chef d'établissement s'adresse à l'inspecteur d'académie de Créteil pour avoir son aval, lequel dit « Ah, la question est délicate, il vaut mieux s'en référer au recteur ». Le recteur dit « Ouf, c'est une question sensible, il vaut mieux s'en référer au cabinet du ministre ». Et donc la réponse arrive du ministre qui dit « Oui, vous pouvez inscrire cet article dans le règlement intérieur ». La réponse est arrivée 1 mois après le départ de la question, ce qui est un record du monde pour notre institution. Et personne n'a jamais entendu parler de problème de voile ou de foulard au collège Pasteur de Créteil. Ça avait été réglé très simplement. Il y a eu deux ou trois autres situations de ce type. Là, on a tergiversé, beaucoup d'atermoiements, on n'a pas su comment réagir, et ça explique beaucoup des difficultés que nous avons pu connaître par la suite. Juste un mot. Je n'ai pas milité pour l'exclusion de signes religieux de l'espace public, mais de l'espace public particulier qu'est la salle de classe. C'est pas tout à fait la même chose. L'espace public, moi.
Le collège, le lycée. Mais vous avez même poussé le bouchon plus loin, parce que vous êtes, vous, carrément, pour l'interdiction du voile à l'université.
Alors, à l'université, là encore, il faut être très, très précis sur l'université. D'abord, ça n'est pas que le voile lui-même, c'est les signes d'appartenance religieuse, les signes de ses tenues. Il est vrai que c'est le voile qu'on voit essentiellement, mais ça concerne, ça a valeur générale, ce que nous proposions à l'époque où je travaillais au Haut Conseil à l'intégration. On y reviendra peut-être, parce que c'est aussi du Haut Conseil à l'intégration qu'est partie l'idée de célébrer le 9 décembre. Donc, ce que nous proposions, c'est que ces signes ne soient pas visibles dans les amphithéâtres et dans les salles de cours et dans les situations d'enseignement. Situations d'enseignement, pourquoi ? Parce qu'on peut admettre que des étudiants, par exemple, qui se destinent à un métier d'ethnologue ou autre, etc., puissent aller faire des fouilles à certains endroits, par exemple. Et donc ça, c'est une situation d'enseignement. Voilà, donc on parlait de cela. Oui. Non pas sur le campus, nous l'avions bien distingué, c'est les salles de classe. Eh bien, je pense que on peut être en droit de demander cet égard vis-à-vis de l'institution universitaire, de ne pas arborer de signes d'appartenance religieuse dans cette enceinte, de la même manière que tout un chacun manifeste des égards quand il se rend dans une église, il va se découvrir, dans une synagogue, il va se couvrir, dans une mosquée, il va se déchausser. On ne se présente pas dans n'importe quelle tenue. On peut admettre que, en retour, la République est aussi des égards.
Alors, vous êtes secrétaire général du Conseil des Sages de la Laïcité, qui a été installé le 8 janvier 2018 par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation actuelle, et qui se définit comme étant aux côtés du corps enseignant et de la communauté éducative. Mais qu'est-ce que ce Conseil des Sages de la Laïcité exactement ?
Alors, il est composé de plusieurs personnalités, d'horizons disciplinaires différents, des universitaires, philosophes, sociologues. La présidente elle-même, Dominique Schnapper, est sociologue, vous le savez. Elle a été membre du Conseil constitutionnel. Il y a des juristes parmi nous, professeurs de droit à l'Université de Toulouse, membre du Conseil d'État.
Il rédige la charte de la laïcité qu'il y a aujourd'hui dans les écoles, c'est lui, c'est le Conseil ?
Non, ça, le Conseil des Sages de la laïcité a été mis en place après. La charte de la laïcité à l'école est née sous le ministère de Vincent Peillon, c'est lui qui l'a promulguée, mais elle était en gestation déjà avant, sous le ministère Châtel, si mes souvenirs sont bons, puisque nous avions réuni une commission de travail sur la pédagogie de la laïcité à l'école, dont faisaient partie Abdennour Bidar et moi-même. Abdennour Bidar est précisément celui qui a, pour l'essentiel, tenu la plume pour transcrire les éléments de réflexion collective de cette commission qui réunissait des personnes du HCI, du Haut Conseil à l'intégration, dont nous étions Abdennour et moi, et des personnes de l'éducation nationale, des services, de la direction générale de l'enseignement scolaire, comme de l'inspection générale.
Alors,
par exemple.
Est-ce que le Conseil des Sages, par exemple, est sollicité sur quelque chose que je comprends pas trop, vous allez m'expliquer. On parle de plus en plus d'enseigner le fait religieux à l'école. Ça veut dire quoi, ça?
Alors, d'abord, je vais vous dire une des réalisations importantes du Conseil des Sages depuis son installation en janvier 2018, c'est le vademécum de la laïcité à l'école qui essaie de répondre à des questions très concrètes qui peuvent se poser dans l'organisation des enseignements, dans l'organisation de la vie scolaire dans les établissements. Donc c'est un document qui commence progressivement, il faut du temps là aussi, c'est une grosse institution, une grosse machine, donc qui commence à être connue et bien utilisée par les enseignants et par les chefs d'établissement, donc il est surtout connu pour cela. Le fait religieux, c'est lorsque je travaillais auprès de Jack Lang, celui-ci a souhaité faire appel au philosophe Régis Debray pour réfléchir à la question de la place des faits religieux dans l'enseignement laïque, de l'école laïque. Donc Régis Debray avait rédigé un rapport qui est assez connu aujourd'hui, le voici, il est paru aux éditions Odile Jacob avec une préface de Jack Lang, à l'époque en 2002, l'enseignement du fait religieux dans l'école laïque. L'expression elle-même pourrait laisser
c'est
penser...
C'est quoi le fait religieux ?
Alors, le fait religieux, en réalité, il s'agit d'histoire des religions, de comprendre la place des religions dans l'histoire des hommes à travers le monde, à travers le, donc dans l'histoire. C'est de considérer les religions aussi comme des éléments de connaissance, historique et de réflexion philosophique, etc. On rencontre partout... La question de la religion. Vous pouvez pas étudier Racine, Corneille, et ne parlons pas des philosophes de l'Antiquité et à toutes les époques. La littérature est pleine de références à cela. Vous pouvez pas faire
La mysticité, les références à Dieu, etc. imprègnent, oui, c'est vrai, oui. Mais les religions, c'est quand même particulier.
Oui, mais il ne s'agit pas là de faire du catéchisme, si vous voulez. Il s'agit de prendre les religions comme des objets de connaissance, donc avec la distance aussi nécessaire, la distance qui doit être de mise dans l'éducation. Nous, au Conseil des Sages, nous préférons parler d'approche laïque des faits religieux, on le met au pluriel, des faits religieux dans l'enseignement. Parce que nous ne voudrions pas laisser à croire qu'il s'agit là d'une discipline nouvelle en tant que telle, qui doit être promue. C'est plutôt la manière dont nous pouvons aborder les questions de religion dans les différentes disciplines, parce qu'on peut les aborder, je viens de le dire, en philosophie, en littérature, mais aussi dans les arts plastiques, la musique, etc. Donc les sciences de la vie et de la terre, extrêmement important de parler aussi de cela, hein, la création du monde, justement, ça peut se heurter à certaines conceptions. Donc il est important à l'école de faire la distinction nette entre croire et savoir, entre les connaissances et les croyances.
En tout cas, bon courage, c'est pour enseigner l'enseignement des faits irrationnels. Ça va être compliqué pour la République où la rationalité quand même est de mise, donc ça va être un énorme chantier. Alors, c'est la République, l'école, ça va ensemble. Et on a eu en France des attentats, ça a été terrible, le Bataclan, on a eu Charlie Hebdo, etc. Et le point d'orgue, si on peut parler comme ça a été Samuel Paty. Ça a traumatisé l'ensemble de la communauté nationale, tous les citoyens de ce pays. On s'est attaqué à un enseignant, on s'est attaqué à l'école, on s'est attaqué à nos enfants. Jamais un traumatisme n'a été aussi important. Là, l'école a été visée.
Oui, et je dois vous dire, au risque de vous étonner, que personnellement, ça ne m'a pas vraiment étonné. Je ne m'attendais évidemment pas à ce qu'un professeur se fasse décapiter, comme ça s'est produit, de la manière la plus brutale, la plus sauvage qui soit. Mais je savais que l'école était une des cibles privilégiées des terroristes islamistes de par le monde. Vous savez, l'État islamique, Daesh, avait un organe de propagande qui s'appelle Dar al-Islam et qui avait une version française assez diffusée. Et dans un des numéros qui doit dater, si mes souvenirs sont bons, de novembre 2015, le dossier est consacré de manière intégrale à la France, à la République française. C'est une attaque en règle. Et au sein de la République française, ce qui est particulièrement visé, c'est l'école. L'école sans Dieu, comme il l'appelait, comme le parti clérical de la fin du 19e nommait l'école de la République déjà. L'école sans Dieu, l'école où on apprend, où on veut faire croire, dit le mensuel Dar al-Islam, je crois que c'est un mensuel, l'organe de presse en tous les cas, où on veut faire croire que les filles et les garçons sont égaux. Non, il n'y a pas d'égalité entre les filles et les garçons, dit ce magazine, vous voyez, et dit l'État islamique. Et toute une série de choses, c'est une école qui va contre les préceptes de l'islam, dans ce numéro, les parents de confession musulmane sont appelés non seulement à retirer leur enfant de l'école publique en France, ça date de 2015, mais à tuer les enseignants. Alors, c'était dit en 2015. Donc
dans la réponse, est-ce que y a quelque chose qui me semble un peu inapproprié dans la réponse des institutions et de l'autorité publique politique française, en prenant ces gens qui qui commettent des attentats en les mettant sur un piédestal, sur un, en disant voilà, ils ne passeront pas, ils ne nous auront pas, ils incarnent la barbarie, ils sont comme s'ils étaient porteurs de quelque chose. Or ces gens-là ne sont pas porteurs ni d'une civilisation ni d'une culture. Pourquoi on ne les traite pas comme des comme des grands délinquants, comme des terroristes, comme de la vermine, comme des gens qu'il faut éradiquer? Ce sont des gens qui n'appartiennent pas à la civilisation. Pourquoi on se met au même niveau qu'eux? L'islam est une religion de paix, comme la plupart des religions. Et pourquoi on va sur les terrains d'islamisme radical, etc.? Pourquoi on ne trace pas une ligne en disant ces gens-là, ce sont des fascistes, ce sont des terroristes, c'est de la vermine, c'est de la grande délinquance. Et puis d'autre côté, voilà, pourquoi il y a cette espèce de sans arrêt de dire voilà, il y a quelque chose qui ne passe pas, quoi.
Non, mais vous avez raison d'employer le terme que vous venez d'employer, fascisme. On a affaire à un nouveau fascisme que longtemps nous n'avons pas su nommer. Et encore aujourd'hui, beaucoup ne le nomment pas.
Moi, je l'ai nommé en 85, dans mon livre, Droit de réponse à la démocratie française. Et je parle déjà à l'époque de fascisme vert.
Et absolument, 85. Mais j'allais le dire, je me souviens très bien de votre expression, le fascisme vert, absolument. Ouais. Donc, mais vous êtes bien placé pour voir que tout le monde n'a pas repris l'expression. Alors, oui, bien sûr, il faut tracer une frontière tout à fait nette entre ceux qui font une utilisation politique de l'islam et dans une acception fasciste, comme vous le disiez.
Ce sont des terroristes.
Tranquillement pieux. Le problème, c'est que, ce faisant, ces fascistes utilisent, instrumentalisent l'islam. C'est au nom de l'islam, c'est au nom d'Allah, c'est au nom du prophète qu'ils mènent ce combat. C'est pour ça que c'est difficile de faire comme s'ils ne disaient pas ça, comme s'ils ne professaient pas.
En tout cas, dans l'écrasante majorité de la population dite de croyance humaine, il n'y a aucun écho. Ils ne déclenchent aucune sensibilité.
Alors, j'ai longtemps dit, comme vous, l'écrasante majorité. Très longtemps. Et je pense que c'est le cas en particulier pour les adultes de confession musulmane. Mais j'ai des craintes concernant les plus jeunes aujourd'hui.
C'est là où l'école va être importante.
Absolument.
On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir parce que c'est un combat de longue haleine. La laïcité, c'est un combat qui n'est jamais fini. La démocratie, c'est un combat qui n'est jamais fini. Ce sont des équilibres qu'il faut maintenir en permanence avec des gens qui se battent, comme vous. Alain Sexig, merci d'être venu dans les Grands Témoins.
Eh ben, merci à vous.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.